On a une semaine très courte, cette semaine-ci, pour moi du moins. Je crois qu'il est bon encore de regarder la prudence comme ce qui commande toute notre vision sur le monde physique. Nous appartenons au monde physique par notre corps. Mais nous pouvons appartenir au monde physique de multiples façons. On peut appartenir au monde physique en exerçant un dominium absolu sur le monde physique, ce qu'on est en train de faire. On détruit la nature, on ne s'occupe plus de la nature. Vous voyez, la vieille définition de l'art, adjuvans naturam, pour toute une partie de l'art mineur, adjuvans naturam, n'est plus du tout adjuvans naturam, l'art complète la nature. Ça complète la nature. C'est sûr. La nature faiblit, le corps faiblit, et quand le corps faiblit pour les yeux, c'est assez gênant. Parce que c'est, faut attendre la résurrection. Et nous pouvons cependant œuvrer un peu. Et on retarde la mort. On retarde les impuissances. L'homme domine la nature parce que par l'intelligence, il la domine, mais il la respecte. Le premier respect de l'homme, c'est à l'égard de son corps. Le premier respect de l'homme, pas d'une façon absolue, puisque c'est à l'égard de Dieu, mais ce premier respect de l'homme à l'égard de la nature, à l'égard du monde physique, c'est le respect à l'égard de son corps. Le respect à l'égard de son corps est double. Au corps, je le respecte si je lui donne un travail qu'il est capable de faire. Mon corps permet le travail. Et mon corps se développe, il se développe bien dans la mesure où justement il me permet d'exécuter mon travail, oui. Vous voyez tout de suite, prudence et art. Et c'est très vrai, c'est que le point de vue principal de la prudence, c'est de coopérer avec l'art. Et de coopérer avec l'art par rapport au travail de son corps. Le respect du corps, c'est de lui demander un travail qui ne soit pas excessif. C'est-à-dire de demander un travail qui n'écrase pas l'homme. travail excessif, c'est un travail que l'homme ne peut pas dominer. Puisque l'homme ne peut pas dominer, son intention morale diminue. Il est sûr qu'un ouvrier qui a fait un travail abrutissant toute la journée, son intention morale est beaucoup moins forte. Celui qui, pendant toute la journée, a fait un travail adapté au corps, à ce moment-là, il a une vision beaucoup plus claire de ce qu'il est capable de faire et de ne pas faire. Vous voyez, ça, je crois que là, il y a la première éducation de la prudence. Nous pouvons tous faire ça. Et nous devons le faire. Et savoir ce qu'on est capable de faire. Celui qui ignore complètement ses capacités de travail n'est pas prudent. Celui qui connaît ses capacités de travail, de toute espèce de travail, hein, le travail le plus bête jusqu'au travail le plus astucieux. Le travail le plus astucieux, c'est de lire saint Thomas. Il n'y a rien de plus astucieux comme travail. C'est pas de lire la Bible, c'est de lire saint Thomas. La Bible, c'est la foi. Et on ne dit pas que la foi travaille quand elle lit l'Écriture. Vous voyez le défaut. Il y a des gens qui lisent l'Écriture uniquement pour travailler, faire un bouquin. Tout est ordonné à ça. Ils lisent à travers toute la Bible chaque fois que est marquée telle ou telle chose. Ils font une thèse. Ils travaillent la Bible. La foi ne réclame pas un travail universitaire. La foi réclame le travail des enfants. C'est pas la même chose. C'est important, ça. Ça ne fait pas partie directement de la prudence, quoique, oui. Le travail peut étouffer la foi et l'intelligence. Alors que le travail doit nous maintenir éveillés et nous permettre d'aller toujours plus loin. Vous voyez ? Donc, mesurer ses forces de travail, c'est savoir si le travail que nous faisons nous rend plus personnel. Ah. Plus homme, plus femme. Si le travail qu'on fait nous abrutit, l'homme ou la femme, c'est un travail qui n'est plus humain. Donc la prudence règle le travail humain et permet au travail d'être humain. Le travail ne peut pas être mesure du travail. Parce que le travail est nécessairement un moyen. C'est très important, ça. C'est la prudence qui maintient ça. De regarder que le travail, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin. Nous ne sommes pas une machine faite pour travailler. nous sommes faits pour prier, contempler, aimer. C'est important de bien saisir ça. Et c'est la prudence qui dit ça. C'est la prudence qui me fait comprendre la valeur exacte du travail. C'est très important. Parce que le travail a été exalté dans certaines idéologies. Le travail a été regardé comme la chose proprement humaine qui demande d'être développée pour elle-même. On oublie que le travail est un métaxu, un moyen, pas plus. Il n'y a pas de spiritualité du travail. Ce serait monstrueux. Tandis que certaines idéologies ont une spiritualité du travail. Le travail définit l'homme. Vous voyez, quand le travail définit l'homme, on n'est même pas au niveau prudence. On est à un niveau de l'homme transformant la matière, transformant le monde qui est autour de lui. Et donc, c'est l'homme qui devient mesure. Et on ramène tout à l'homme. C'est un travail non pas humain, mais un travail d'homme. Ce n'est pas la même chose. Le travail de l'homme et le travail humain. Il faut voir toute la différence entre les deux. Et la différence entre les deux se marque par la prudence. C'est la prudence qui vient limiter votre travail pour qu'il reste humain. Autrement, votre travail devient un travail de l'homme, mais n'est plus prudent. Parce qu'il n'a plus sa finalité. Il se finalise lui-même. Le travail ne se finalise pas lui-même. Voyez la prudence, hein. C'est quand même très important, hein. C'est l'intelligence du pratique. Et l'intelligence du pratique se fait toujours par le travail. C'est par le travail que vous avez l'intelligence du pratique. Et ça, c'est la prudence. Elle peut régler le travail. Ou on en fait trop. On en fait trop quand on est saisi par des idéologies particulières. Alors, l'homme se définit par le travail. Ou passer. C'est parce que on ne veut pas se salir les mains. On ne veut pas s'abaisser à cela. On veut rester uniquement dans la contemplation. Soi-disant. Parce que si on restait dans la contemplation, on comprendrait que le travail a une place. Mais celui ou celle qui dit « Moi, je ne travaille pas, je suis fait pour la contemplation. » Celui-là perd sa contemplation. Le travail permet à l'homme de rester ce qu'il doit être, c'est-à-dire le contact avec l'univers se fait par le travail de multiples manières. Il faut regarder toutes les manières le travail peut se faire, mais c'est toujours transformation de l'univers. Et la prudence rappelle que l'activité humaine est premièrement une activité du facere. Ça, c'est la prudence qui rappelle ça. Et ça, c'est très important. Notre première activité n'est pas une activité morale. Celui qui considère que la première activité de l'homme est une activité morale, celui-là perd le sens du travail et croit que l'homme est fait premièrement pour contempler. L'homme n'est pas fait premièrement pour contempler, il est fait premièrement pour travailler. C'est très très important ça, de garder ce réalisme-là, ce réalisme prudentiel. Des quantités de maladies psychiques proviennent du fait qu'on ne travaille plus, qu'on ne veut plus travailler, qu'on rejette le travail pour les autres et qu'on considère qu'on est fait pour la contemplation, pour l'amour. Voyez, la prudence nous donne le sens premier de l'âme unie au corps. C'est l'âme unie au corps qui fait que l'homme est premièrement, fondamentalement, un travailleur. Et si vous coupez dans votre vie, alors, cette activité de travailleur, vous déséquilibrez votre vie. Le déséquilibre provient toujours d'un manque de prudence. Toujours. Au point de départ. Une prudence qui n'a pas été suffisamment éclairé. C'est pour ça que c'est si important. La prudence, c'est le travail, c'est l'activité humaine première. Et l'homme doit toujours être très attentif, l'homme ou la femme, très attentif à ce développement premier de l'homme. Ce développement premier de l'homme, de l'intelligence qui se sert du corps, d'une âme qui informe le corps, c'est le travail. Alors, évidemment, ce n'est pas nécessairement un travail qui exige beaucoup de force. Le travail n'est pas nécessairement douloureux. Le travail est dans le sens de notre nature. Donc il doit être agréable. C'est la nature humaine qui se trouve chez elle par le travail. On doit, dans le travail, trouver le bien de l'âme et du corps. On doit, par le travail, se trouver chez soi, dans notre monde. On doit donc aimer le travail. Quand on commence à ne plus aimer le travail, cela prouve que le déséquilibre commence. Et c'est pour ça que on dit à ceux qui qui doivent avoir une vie intellectuelle plus forte, c'est bon qu'ils ont un contrepoids dans le travail manuel. Le travail manuel a l'avantage d'être un travail qui engage notre corps immédiatement. Le travail intellectuel n'engage pas directement notre corps. Il l'engage par le point de vue de la vision, par le point de vue d'écriture, par le point de vue de la composition, mais c'est beaucoup moins le contact avec la matière, avec la quantité. Le travail nous donne le sens de la quantité. Ce qui est très important, c'est le travail qui nous permet de maintenir dans notre vie toujours une distinction entre la qualité et la quantité. Ce qui est très, très heureux. Parce que c'est cette distinction de la qualité et la quantité qui est à la racine de toute notre vie humaine. Notre vie humaine tendra vers le point de vue matériel quand nous ne regarderons plus que la quantité. Notre vie tendra vers un point de vue spirituel quand nous serons capables de distinguer la qualité de la quantité. Il faut dans tout travail faire la distinction entre la qualité et la quantité. Ça s'apprend, ça. Ça s'apprend. Et c'est utile pour toute notre vie. Si on ne fait plus la distinction entre qualité et quantité, on devient très vite des esclaves. Soi-même. Hein. Parce que notre maître devient la matière. Et l'esclavage le plus terrible, c'est quand c'est la matière qui est notre maître. Le positivisme cache un esclavage. L'esclavage de l'homme à l'égard de la matière, à l'égard du sensible. L'humanité devient moins intelligente par le positivisme. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. On ne fréquente que les choses quantitatives. Et au bout d'un certain temps, on ne comprend plus que la quantité. Enfin, le défaut terrible de notre monde d'aujourd'hui, c'est que on tend à être une civilisation de la quantité et non pas de la qualité. Et la civilisation de la quantité, c'est une forme d'esclavage, un esclavage très intérieur, très spirituel, mais c'est une forme d'esclavage. C'est la quantité qui nous tient, qui nous saisit, et on ne voit plus que ça. Oui, la prudence fait cette distinction constante de notre travail entre qualité et quantité. On bâcle le travail pour la quantité. On maintient en nous un équilibre humain en faisant que le travail demeure humain. et que par le point de vue de la qualité, je rejoins le point de vue de la réalité. C'est très extraordinaire, hein, de voir que le travail me met en relation avec ce qui est quand même très important dans ma vie, la distinction de la qualité et de la quantité. Et ne pas les confondre. Et choisir toujours la qualité, non pas la quantité. Être des hommes de la qualité. Et ça s'acquiert. Si on est très attentif au point de vue prudentiel, celui qui n'est pas prudent du tout ne sait pas distinguer qualité et quantité. C'est un manque terrible de prudence, parce que c'est ramener l'homme à la bête. C'est ce qui est le plus terrible au point de vue prudence. Alors qu'au point de vue prudence, c'est d'éveiller ce qui, en nous, nous permet d'échapper à la bête, de la dominer, de l'empêcher d'être toujours en colère, de l'empêcher de foncer à sa vitesse. Il y a quelque chose encore plus subtil que la prudence doit arriver à nous faire comprendre. Et la prudence, elle est code naturel au développement du travail en nous. Nous avons commencé à être prudents en travaillant. Et nous continuons d'être prudents en travaillant. Donc un homme, une femme qui ne travaille plus, petit à petit, perd sa prudence. Si elle ne fait pas grande attention, elle tombe dans une idéologie, donc elle perd sa prudence. Et ça, on peut obliger les gens de travailler. On n'a pas le droit de laisser perdre ce sens du travail. Et si on vous dit, si la personne dit, oh, moi je suis fait pour la contemplation, donc je ne suis pas fait pour le travail, vous pouvez répondre, non, c'est faux, vous avez un corps. Et votre corps réclame le travail. Autrement, votre corps deviendra n'importe quoi. Vous n'arriverez plus à le dépasser, à vous en servir. La première manière de dominer sur son corps, c'est le travail. C'est le travail. Et ça va très loin, ça, vous savez, point de vue éducatif. C'est la première manière de dominer son corps, c'est le travail. La dernière manière de dominer son corps, c'est le point de vue sexuel, puisque c'est ce qui achève le point de vue du corps. C'est le point de vue sexuel qui est à la racine de la fécondité. Eh bien, le point de vue sexuel ne pourra être dominé par l'âme que s'il y a le travail. Donc une manière de se corriger quand on est trop porté vers le point de vue sexuel, c'est le travail. Et le manque de travail augmente l'imagination. Et l'imagination est là pour faire que le point de vue sexuel l'emporte. Il y a des liens très très fonciers qu'il ne faut jamais oublier, parce que c'est très très utile ça. Vous voyez, le travail nous éduque. Nous avons besoin de ça. Le travail nous éduque jusqu'à la vertu de virginité. Le travail permet ça. Alors, il faut être très attentif et bien comprendre l'importance du travail dans notre vie et de continuer de l'aimer. Alors, si le travail intellectuel, purement intellectuel, nous ne l'aimons pas du tout, ça peut arriver, ça. On n'aime pas du tout la philosophie. On est bête pour la philosophie. On trouve ça assommant, complètement ridicule. Mais ça peut arriver. On a été peut-être élevé uniquement dans un point de vue matériel et l'éveil spirituel de l'intelligence n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Point de vue éducatif, on doit trouver un domaine où le travail nous agrée. Alors, ça peut être l'art. C'est un travail très noble, un artiste. Travail manuel, évidemment, dans ce qu'il a de tout à fait manuel, je comprends. Ce n'est pas très agréable. Mais un travail plus intellectuel. Alors, il y a le travail plus intellectuel de celui qui aime la lecture. Alors, arriver à faire que la lecture devienne un travail. Parce qu'on peut très bien lire en dilettante. On lit à toute vitesse. En dilettante, on a lu ce bouquin pour le plaisir de lire. On n'a rien retenu. C'était plus le travail. Ça a été le dilettantisme qui a transformé le travail. Alors ce n'est plus du travail humain. Le travail est toujours un moyen pour réaliser quelque chose. Donc, si le travail ne réalise rien, dilettantisme. Le dilettantisme, c'est ça. C'est celui qui travaille en dilettante, sans regarder le résultat, en s'en fichant pas mal du résultat. Je travaille pour travailler. Et ce travail-là ne vous corrige pas, ne vous donne pas le sens du réel. Un travail vrai a toujours une œuvre. C'est un moyen de dominer le monde matériel, le travail. Je domine le monde matériel par le travail. Il faut arriver à le voir hein, dans notre vie. Si on n'a qu'un travail intellectuel, c'est plus difficile de trouver dans le travail intellectuel, purement intellectuel, la lecture des œuvres sérieuses, des œuvres difficiles, la lecture d'un philosophe, la lecture d'Aristote, la lecture toujours ordonnée à un effet. Vous voyez, le dilettante, c'est celui qui lit sans rien retenir. à ce qu'il lit. Qu'il lit pour lui à toute vitesse. Il fait le concours de la rapidité. Alors il ne travaille plus du tout. Vous voyez, la corruption du travail. La corruption du travail, elle se fait du fait qu'on ne voit plus l'effet propre de ce travail. Si on est attentif à l'effet propre de ce travail, il n'y a pas de danger d'être dilettante. Alors, c'est évident qu'il y a un problème au point de vue spirituel. Plus on est spirituel, plus on voit les intentions de Dieu sur nous, et on est très détaché du résultat du travail. Le saint. Alors, il y a un danger de dilettantisme. Le dilettantisme commence par ne plus regarder l'effet du travail. Et on ne se plie plus qu'à la manière dont on travaille. Je travaille pour Dieu. Peu importe, ça réussit pas, ça n'a pas d'importance. Je ne peux jamais dire ça. Chaque fois que je dis ça, j'ouvre la porte au dilettantisme. Et le dilettantisme, provient de l'imagination. C'est mon imagination qui, au fond, désire tout ramener à elle et ne voit plus le résultat extérieur. Et ne le regarde plus, et on se perd au fond dans la joie tout simplement de travailler. Il y a quelque chose de plus important encore dans le travail. Et c'est pour ça que je crois que la première application de la prudence, c'est de nous apprendre à travailler. Travail humain. C'est le passage prudence-art. C'est que, grâce à un travail qui reste humain, on arrive à distinguer les sensibles communs et les sensibles propres. Ce qui est très, très important. Et ça, c'est le travail. La quantité, elle permet le travail. S'il n'y avait pas la quantité, s'il n'y avait que la qualité, on ne travaillerait pas. On serait un homme de la qualité et on ne travaillerait pas. Alors le danger, c'est le dilettantisme. Justement en disant, moi, je suis un intellectuel et je ne travaille pas. Attention, c'est très vrai que la quantité... C'est par où je puis travailler. Puisque, qu'est-ce que vous faites dans le travail manuel? Vous modifiez la quantité. C'est sûr. Vous travaillez le bois, vous travaillez la pierre. Vous modifiez la quantité. Vous ne modifiez pas la qualité. Ah tiens, non. Vous travaillez la pierre. Cette pierre restera toujours la pierre. Elle gardera exactement les mêmes qualités, même si vous la travaillez mal. De sorte qu'on pourra vous dire, écoutez, vous avez pris une qualité merveilleuse et votre travail est lamentable. Vous avez abîmé. Qu'est-ce qu'on transforme on transforme les relations quantitatives. C'est là notre travail. Ça se fait à une échelle de plus en plus subtile. Mais c'est toujours le point de vue quantitatif. La qualité comme telle, on la respecte. On ne veut pas la changer. On la respecte. On arrive donc, grâce au travail, à maintenir la distinction entre les sensibles propres et les sensibles communs. Ce qui est très important au point de vue philosophique. Ce qui est à la racine même d'une intelligence qui veut découvrir le point de vue profond de l'être. L'être est toujours qualitatif. Toujours. Il n'est pas quantitatif. Alors, si vous avez le sens du travail, et si votre travail est bien fait, il reste un travail humain. Dans tout le domaine où vous travaillez, vous arrivez à distinguer, à discerner le point de vue quantitatif du point de vue qualitatif. La qualité, on la respecte. La quantité, on manœuvre. Et toujours, le travail fait la distinction entre les deux. Qu'est-ce que vous modifiez, la quantité ? Qu'est-ce que vous respectez, la qualité ? Dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est très curieux. Alors, si vous arrivez à distinguer les sensibles communs et les sensibles propres, vous faites un pas énorme vers le point de vue de la connaissance spéculative. La connaissance spéculative, c'est de connaître les sensibles propres. La connaissance scientifique, moderne, scientifique, c'est tout simplement de travailler les sensibles communs et de mesurer les sensibles communs. Les sensibles communs sont mesurables puisqu'ils sont liés à la quantité. Le sensible propre n'est pas mesurable. On le saisit, mais on ne peut pas le modifier. On le respecte. C'est le sensible propre qui est au point de départ de la saisie de l'être. Ceux qui mesurent ma connaissance, ceux qui me permettent de connaître les qualités propres. Je dois être très attentif à ça. Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, sensible propre et sensible commun, on les confond. Et comme on ne s'aperçoit pas de cela, les sensibles propres, puisqu'on ne peut pas les mesurer, on les ignore. Et on ne connaît plus que les sensibles communs. Parce que les sensibles communs, on peut les mesurer. Et on les mesure parce qu'ils sont liés à la quantité. Et c'est en ce sens qu'ils sont sensibles communs. C'est le travail qui me permet de faire la distinction réel entre les deux. Vous modifiez les sensibles communs, mais pas les sensibles propres. Et donc, le sensible propre, vous heurtez devant le sensible propre. Le sensible propre exige de vous arrêter quant au faire, quant au facturé, quant à la modification. Vous êtes obligé d'arrêter. Et vous arrivez alors à distinguer dans votre connaissance du monde ce qui est quantitatif, où l'homme peut dominer, et ce qui est qualitatif, là où l'homme ne peut que contempler. Et vous arrivez à discerner la connaissance expérimentale, scientifique, de la connaissance expérimentale philosophique. C'est au fond ça qui est très important, puisque c'est quand même le fondement de notre philosophie. Notre philosophie touche le réel qualitatif, pas quantitatif. Elle le laisse à la science. La qualité, c'est pour la sagesse. Et la sagesse étudie l'aspect qualitatif. Vous voyez que on a toujours besoin d'un plus petit que soi dans la connaissance du monde, des réalités sensibles. Je fais le discernement entre ce qui est mesurable et ce qui n'est pas mesurable. Je fais la connaissance entre ce qui me conduit à la science expérimentale et ce qui me conduit à la philosophie contemplative. Il y a là une distinction capitale que le travail aide beaucoup. Si vous n'avez pas le travail, vous ne touchez pas cette distinction. Vous ne la voyez pas. Vous passez au-dessus, vous vous laissez prendre. Pourquoi, au fond, les hommes ont abandonné les sensibles propres pour s'intéresser uniquement aux sensibles communs? C'est que grâce aux sensibles communs, je peux dominer et faire ce qui m'intéresse. Tandis que grâce aux sensibles propres, je serai obligé de contempler. Je ne les fais pas, je ne les domine pas, je peux seulement les connaître pour eux-mêmes. C'est ça la contemplation, c'est ça la connaissance contemplative, c'est de connaître pour eux-mêmes. Tandis que dans la connaissance pratique du facturé, c'est de connaître pour transformer, c'est de connaître en transformant, en mesurant. Vous voyez comment le travail est quelque chose d'absolument indispensable. l'expérience ne suffit pas. Il faut le travail. Il faut se mouiller. Et entrer très à fond ce qu'on peut changer, ce qu'on doit respecter. Pour comprendre qu'il y a dans la réalité la qualité, la quantité. On est tous des hommes de la quantité, surtout dans notre monde d'aujourd'hui. On est tous des hommes de la quantité. Mais ne perdons pas le sens de la qualité. Perdre le sens de la qualité, c'est nécessairement s'empêcher d'entrer en philosophie. La philosophie, c'est le développement de la qualité du monde. Et la qualité en nous, dans notre propre corps. Vous voyez, c'est pour ça qu'un homme qui ne voit plus que les sensibles communs est d'une terrible imprudence, parce qu'il perd le sens de la finalité.